Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Radio Foot International, une émission aujourd'hui presque, je dis bien presque, intégralement consacrée au...
Ladies and gentlemen.
Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à la célébration des prix annuels de la CAF.
Ok, bon, on a trouvé que la voix du traducteur, hein, et manifestement, il n'était pas là pour faire autre chose que traduire, hein, juste après sa sieste. Il n'est pas vraiment là pour s'emballer. Heureusement, nous, on va trouver le moyen de le faire. Bienvenue donc au débrief des Oscars de la CAF, et notamment le Ballon d'Or africain, qui, ouf, n'est pas Achraf Hakimi ou Serou Guirassy, comme quelques rageux des réseaux sociaux le criaient, oui, fort, mais il est fort, logiquement.
And the winner is... Ademola Lookman.
Alors on n'a rien du tout, bien sûr, hein, contre les autres. Achraf Hakimi, Serou Guirassy, Simon Adingra sont des joueurs doués, à la saison éprouvée. Mais franchement, s'il ne pouvait en rester qu'un, c'était évidemment Ademola Lookman, le Nigérian. Clairement au-dessus en 2024. Philippe Doucet, bonsoir. Vous êtes d'accord avec ça ?
Bonsoir. Oui.
Dubitatif.
Non, moi je regrette que finalement il n'y ait pas eu de joueurs s'étant exprimés au mieux en Afrique qui soient en position de gagner. Ça m'a un peu peiné. Quand une année où il y a une CAN, ça m'embête un peu.
Très bien, c'est aussi quelque chose sur lequel on pourra revenir. Nous reviendrons donc sur le palmarès
quasi... Il était finaliste quand même.
Oui, bien sûr, Simon Adingra, oui. Nous reviendrons donc sur le palmarès quasi complet de cette soirée marocaine, les deux récompenses glanées par le 5e larron, nominé, hein, on ne l'oublie pas, Ronwen Williams, le portier sud-africain, la radiologique en sélection des Ivoiriens, meilleure équipe et bien sûr meilleur sélectionneur, Emers Faye. Coup de projecteur sur le jeune Sénégalais Lamine Camara et sur les femmes. Et pourquoi pas la Zambienne Barbara Banda au sommet et le TP Mazembe, logiquement deux fois primé. Franck Simon, globalement, il vous plaît ce palmarès ?
Oui, ça me plaît bien, ça me plaît bien. J'avais pas été interrogé, vous êtes le premier à me poser la question, j'ai pas fait partie des votants. Ça m'est arrivé par le passé de faire partie
nous non plus, hein, RFI, on vote pas.
De ceux qui défrichent, qui déblaient, donnaient des idées, mais là, bon. Donc ça reste quand même un peu opaque, hein, faut bien le dire, au niveau du processus, mais bon, on a une belle liste.
On n'oubliera pas de rappeler aussi que les joueurs de la FIFA Pro appelés à voter pour le 11 type de l'année devraient arrêter de jouer à la PlayStation, mais regarder le foot en vrai, ça leur évitera d'oublier certains. Une saison de... c'est pas l'Unicatef ici, hein, c'est pas l'école des fans, Jacques Bonnevet.
C'est là où ils voulaient en venir.
Il faut découvrir le vrai monde. Une saison de récompense qui se poursuit ce soir à Doha avec The Best, très pompeusement appelé ainsi par une FIFA hors sol, dont nous parlerons donc demain, hein, mais un peu moins longtemps, parce que quand même. C'est en Espagne, en revanche, que nous clôturerons cette émission, les amis. Bah oui, le point Liga à l'issue du week-end et avant les fêtes, le Barça au tapis, encore, le Real accroché, encore, et l'Atlético qui en a bien profité. Et si les Colchoneros en profitaient toute l'année ? Et si c'était leur saison avec un Griezmann enflammé ? Jacky Bonnevet, bonsoir !
Bonsoir, Olivier !
Et pourquoi pas, quel entraîneur là-bas ? Diego Simeone, ah, il n'est pas français.
Il n'y a pas énormément d'entraîneurs français non plus en Espagne. Et il y en a de moins en moins en France aussi, il faut le dire.
C'était la minute communiste. Voilà le décor planté. Toujours pas de question, pas question de niaiser. Hein. Pierre-Olivier Guérin a tout coupé, monté, calibré. Laurent Salerno a tout écouté et validé. On peut y aller.
Ademola Lookman.
C'est donc Ademola Lookman qui succède à Victor Osimhen.
Ademola Lookman vient de signer la saison la plus aboutie de sa carrière.
Le Nigérian de 27 ans a fait une saison exceptionnelle en signant 17 buts et 9 passes décisives.
Ademola Lookman. Et allez, Nigeria.
C'est aujourd'hui Superman.
C'est donc, en toute logique, Ademola Lookman qui succède à son compatriote Victor Osimhen, deux Nigérians de suite. Ça n'était plus arrivé, tiens, depuis... Je vous écoute, Franck Simon.
Ça fait les années 90.
Attends. Non, parce que si tu reprends le trophée CAF, ça ne me parle pas. Hein. Je ne vois pas où il y a eu deux Nigérians.
Bon, l'équivalent. Eh bien si. 96, Nwankwo Kanu et 97, Victor Ikpeba.
Ouais. Ikpeba, oui, après les Jeux
Olympiques. Les années 90. Oui, les belles années du Nigeria.
Les belles années, ouais.
C'était,
Super Eagles.
C'était la préhistoire des trophées CAF. Hein,
exactement.
C'était vraiment les débuts. Hein.
Ademola Lookman, 27 ans, 17 buts, 9 passes décisives sur la saison dernière, un triplé en finale d'Europa League, la finale de la CAN, il a marqué 3 fois durant cette CAN, finaliste de la Coupe d'Italie avec l'Atalanta, finaliste de la Supercoupe UEFA bien sûr, actuellement en tête du Calcio avec cet Atalanta, 10 victoires de suite, ça ne pouvait être que lui, Philippe Doucet.
Pas forcément, puisqu'on avait craint à un moment que ce soit pas lui. Donc, mais c'est vrai que globalement, compte tenu du fait notamment qu'il a aussi fait la finale de la CAN et qu'il y a été assez brillant pendant un long moment. Il s'est un peu éteint à la fin, mais comme toute l'équipe du Nigeria. Mais pour le reste, il a été assez brillant. Dans ce sens-là, pour moi, c'est un lauréat absolument indiscutable. Et un peu surprenant aussi, parce que vraiment, ça, la constance dont il a fait preuve depuis plusieurs mois, parce que pas tout à fait... à l'Atalanta, il était parfois remplaçant, donc c'était la saison dernière. Donc il n'était pas à ce moment-là considéré comme un joueur premium, si vous voulez. Mais là, depuis qu'il a été considéré comme tel et qu'il est... Il est sur une série exceptionnelle et là, il est d'une régularité surprenante, à un très haut niveau. Donc, absolument rien à dire, c'est un top joueur.
Franck ?
C'est vrai qu'on attendait un Serhou Guirassy, par exemple.
Mais oui, ça aurait pu. Il avait aussi, si on comparait en étant honnête, il est un peu en dessous.
Il est en dessous, notamment en sélection. Voilà, c'est la sélection. C'est là où je voulais en venir. Effectivement, où Serhou, on le voit moins. Il est de retour en équipe nationale à l'automne, où il commence à marquer effectivement par grappe de 2 ou 3 buts. Et il essaye d'aider le Sili de Guinée à se qualifier pour la CAN. Malheureusement, une mission dans laquelle cette équipe a failli. Mais les buts marqués en Bundesliga n'ont pas convaincu tant, enfin, n'ont pas convaincu autant que le parcours et en équipe nationale et en Italie et sur le front européen de Lookman.
Jackie, Lookman, forcément, pour vous aussi,
je dirais, j'imagine, oui, moi, le coup d'œil du technicien que vous êtes. Ce qui frappe, c'est 3 buts en finale contre Leverkusen, qui gagne tout à ce moment-là. Et comme l'a dit Philippe, la régularité chez un attaquant, c'est assez extraordinaire parce que c'est difficile d'être régulier et constant sur une saison, surtout pour un attaquant dans un poste qui est le plus difficile. Et lui, il a réussi sur cette saison à être présent partout. Il n'a pas été blessé, il a été performant, il a scoré, que ce soit en équipe nationale et que ce soit dans son club. Donc à partir de là, un joueur attaquant qui est régulier, c'est sûr qu'il est souvent récompensé, même si Guirassy n'était pas très loin derrière.
Sans doute pas très loin. Les Nigérians, côté attaquant, ça claque. Quoi. On l'a dit il y a 25 ans, Kanou et
Ah oui, ça claque
Peba,
des buts. Hein, ça claque des buts. Ouais,
Kanou, vous n'aviez pas suivi Gernot Rohr, vous qui avez été son adjoint, oui, du temps des Super Eagles, hein, Jacques, vous n'étiez
pas
à ce moment-là.
Non, moi j'ai travaillé avec Gernot dans le club du FC Nantes et j'ai travaillé avec lui au Niger, où on avait participé d'ailleurs à la Coupe d'Afrique
en 2013
en Afrique du Sud, mais j'étais pas avec lui quand il est allé au Nigeria.
Au Nigeria, où il a laissé d'ailleurs de très très bons
souvenirs. Il a laissé des bons souvenirs partout, notre Gernot, ouais, n'est-ce pas,
ouais. Il a même réussi à les battre ensuite avec le Bénin.
Avec le Bénin, exact. Ouais.
On salue tous nos amis béninois, tiens, qui sont nombreux à l'écoute, mais on salue Gernot. Oui, donc pour revenir sur Ademola Lookman, parce qu'on entendait depuis 2-3 jours, alors évidemment les Guinéens voulaient que ce soit Guirassy, ils étaient très présents sur les réseaux sociaux, et puis depuis dimanche, on en a parlé un petit peu hier lors de l'émission de ce lundi, on voyait la cote d'Achraf Hakimi remonter. Alors forcément, on était au Maroc, hein, c'était à Marrakech cette affaire.
C'est curieux,
on annonçait Nasser El Khelaifi présent. On s'est dit non, mais on n'a rien contre Achraf Hakimi, évidemment. Super
il a fait
garçon.
Il a fait médaille de bronze avec, oui, le Maroc au tournoi de Paris.
Mais est-ce que ça compte, ça, vraiment? Est-ce, ouais, que le foot aux Jeux Olympiques, ah oui, ça a tant de poids que ça?
Si, bien sûr.
Ça compte, mais...
Ça compte chez les femmes, mais chez les hommes, c'est quand même un tournoi moyen.
Ah, oui, mais personne ne le dit. Personne n'accepte
tout
cette...
Tout le monde le pense.
Non, je veux dire,
c'est les moins de 23 ans.
Quand le Nigeria et le Cameroun ont gagné les JO, tout d'un coup, l'Afrique a trouvé un grand intérêt à ce tournoi, bien sûr.
Philippe, on avait plus fort chez les Marocains dans ce cas-là. Mais c'est quelqu'un qui n'évolue pas ni en Afrique, ni en Europe. Le meilleur buteur du tournoi de Paris, des Jeux Olympiques, Soufiane Raimi.
Oui, c'est vrai.
Raimi, ouais. Vainqueur de la Ligue des Champions d'Asie avec Al Ahly, sous la direction de Crespo.
Oui.
Donc, il gagne la Ligue des Champions avec un club où, en plus, il sort toutes les équipes saoudiennes renforcées par qui vous savez. Mmh. Il finit meilleur buteur de la compétition. champion donc d'Asie. Et derrière, il embraye et il fait meilleur buteur du tournoi où il prend la médaille olympique, où il prend la médaille de bronze. Et il a pris la place de titulaire en équipe nationale du Maroc.
Et il est où dans le palmarès de...
Il était dans la liste, mais il
doit être juste
la...
derrière Salah. Ah non, Salah, il n'y était pas.
Non, mais il manquait d'autres joueurs aussi. Hein, c'est pas... Ça, ce sont les choix qui ont été faits. On ne va pas revenir dessus. Hein.
On rappelle qui fait ces choix, qui élabore la liste.
Alors, ce qui est ambigu, c'est qu'il y a deux jurys différents, si j'ose dire. Il y a le jury de ce dont on parle, c'est-à-dire ceux qui ont les trophées. Et je sais même pas qui en fait partie. Il y a des journalistes ou pseudo-journalistes ou entraîneurs, joueurs. Il y a des entraîneurs, il y a des joueurs qui votent.
Des influenceurs peut-être, très à la mode.
Peut-être.
Au Maroc,
pourquoi pas, mais à ce moment-là, on dit qu'ils sont journalistes, comme ça permet de voter.
Il y a aussi effectivement ce qu'on appelle le TSG, c'est-à-dire le Technical Study Group.
Oui, absolument.
Les anciens joueurs devenus entraîneurs et qui ont aussi leur mot à dire. Mais
on ne sait pas très bien qui a voté. Par contre, pour le 11, il faut préciser...
Jackie, vous ne l'avez pas voté?
Non, je n'ai pas voté.
Sûr?
Faut préciser. Par contre, il faut préciser une chose tout de suite, c'est que pour le vote des 11 de l'équipe,
C'est bien les joueurs de la FIFPro, non?
Et là, c'est les joueurs de la FIFPro. Donc, c'est pas le même jury. D'où les incohérences totales là-dessus, parce qu'il y a quand même des joueurs dont on vient de parler qui sont deuxième, quatrième, qui sont même pas dans l'équipe type. C'est fabuleux.
On va en reparler. dans cette liste de 5, donc dominée par Ademola Lookman, il y avait également donc Simon Adingra. C'est vrai que. Pourquoi pas? Il est champion d'Afrique. Alors, on disait tout à l'heure, la perf de Lookman, c'est d'avoir été bon en club, bon en sélection. Guirassy, bon avec son club, vice meilleur buteur en Allemagne, c'est quand même pas rien, derrière Harry Kane, mais en sélection, pas terrible.
Non.
Et en ce qui concerne Adingra, très brillant en sélection, champion d'Afrique, mais en club.
Oui, mais c'est vrai aussi. Je disais tout à l'heure, je regrettais que la Côte d'Ivoire n'ait pas davantage été récompensée sur le plan individuel, mais en même temps, il est vrai que la carrière invraisemblable de la Côte d'Ivoire pendant ce tournoi, où des joueurs très importants ont été complètement déclassés dans le premier tour, puis sont réapparus très tardivement, Adingra, Haller, ils surviennent à la fin, finalement, parce qu'ils sortent de blessures, ils sont blessés jusqu'en quart de finale, ils ne jouent pas, ils jouent quart ou demi même pour Haller. Donc, du coup, il n'y avait pas de joueurs en fait, qui ressortaient de cette sélection. Et donc, quelque part, sur la distinction individuelle, on comprend que je comprends très bien que ce ne soit pas un Ivoirien. Ça me gêne que ce ne soit pas un vainqueur de la CAN qui soit promu l'année où il y a la CAN, mais en même temps, ce n'est pas choquant. C'est logique.
Pareil. Pareil. Pas mieux.
Jackie, il a appuyé sur le buzzer, Jackie. Ça veut dire que parce qu'on vient de parler de lui et qu'il a réglé tout le monde et que c'était l'énormissime favori, écoutons donc Ademola Lookman. Vous allez le voir, on va vous proposer 3-4 interviews globalement de gens contents d'être heureux.
Je suis vraiment heureux, je suis vraiment fier pour ma nation, pour ma famille, c'est vraiment un moment particulier. C'est du dur labeur et beaucoup d'abnégation. Vous savez, quand on vient du sud de Londres comme moi, ce n'est jamais vraiment facile et être reconnu comme cela, c'est particulier.
Ça reste vraiment un prix important pour ces joueurs-là. Vous pensez qu'Ademola Lookman, ce trophée-là, il va être à côté de celui de la Ligue Europa, par exemple?
Oh oui, je pense. Oui.
Succédé à Victor Osimhen, puis quelques noms. C'est un palmarès quand même évidemment extrêmement illustre.
Oui, c'est un continent considérable, l'Afrique. Numéro 1 en Afrique, considéré comme numéro 1, c'est énorme.
Il prend forcément une autre dimension aux yeux du monde entier. Voilà.
Oui, clairement.
Ah oui, pour moi, sûr. Ouais, les gens qui le connaissaient sans plus parce qu'ils ne s'intéressaient peut-être pas ou qui n'étaient pas vraiment dans toutes les informations du foot africain, maintenant, il est certain qu'il va avoir un regard différent, avec beaucoup plus d'exigences. Et en plus, les adversaires qui le connaissent déjà, ça va être encore pire. Donc, la confirmation de la deuxième saison, ça va être encore plus difficile pour lui parce que maintenant, il est devenu un joueur de haut niveau, haut niveau.
La première ligue l'attend
pour un
retour.
Ouais. C'est aussi ça. C'est-à-dire que dans la perception du joueur, il va y avoir de nouvelles exigences. Et même pour lui... Il l'a bien rappelé, c'est un petit gars de Londres, c'est un Anglais, c'est un enfant de la diaspora nigériane. Donc ça veut dire qu'il a sur le plan culturel, il est coupé entre d'un côté son côté nigérian, son côté anglais-britannique. Là, du coup, aux yeux du monde, il n'est plus le petit gars, la pièce rapportée dans l'équipe nationale nigériane. Il n'est plus le petit anglais, mais il est bien le nigérian. D'ailleurs, il est venu, on l'a vu, il est arrivé dans une superbe tenue traditionnelle, etc. On sent qu'il c'était un moment très important pour lui. Et quelque part, voilà, l'exigence, elle va être décuplée. Et tant mieux, voilà.
Moi, j'avais très peur d'une chose. C'est que Diaz, qui est avec L'Oréal, Diaz, le fait qu'il soit marocain, du Real et autres, j'avais peur d'un prix de ce genre-là. Or, c'est un joueur qui joue avec le Maroc depuis 6 mois. Enfin,
oui, à peu près. Ouais, depuis 8, mars. 9 mois. Depuis mars.
Oui, voilà, oui, c'est ça. Depuis 9 mois, quoi, 8 mois. Ça, j'avais très peur de ça. Mais Ademola Lookman, il faut reconnaître une chose. Ça fait 2 ans seulement qu'il joue avec l'équipe du Nigeria. Et s'il n'y a pas le triplé contre Leverkusen, je ne pense pas que tout le monde aurait eu Ademola Lookman à la bouche.
On se souvient de lui quand même contre le Cameroun.
Oui, non, mais, Cannes, non, mais bien sûr, il a marqué 2 buts ce soir-là.
Avec Laurent Salerno, puisqu'on parle de triplé en finale de Ligue Europa, ben on vous le fait revivre.
On est comme ça, c'est cadeau. Super dur,
c'est cadeau.
La Paz Costa qui avance, le centre, Lookman 1-0 grâce à Lookman. Lookman s'en va provoquer de nouveau la défense, la frappe. Qui dribble, qui frappe. Oh, c'est le plus beau jour de sa vie. Ademola Lookman, comme dans un rêve, un triplé historique et un but fabuleux.
Et ben non, mon petit bonhomme, le plus beau jour de sa vie, c'était hier. Après la finale de la Ligue Europa, c'est bien sûr ce ballon d'or africain, appelons-le comme ça, cet Oscar de la CAF qui le récompense à Ademola Lookman, donc meilleur joueur du continent pour l'année 2024, hein, non pas la saison, mais l'année 2024. Parmi les 5 joueurs qui étaient nominés, il y en a un volontairement que nous n'avons pas cité, c'est Ronwen Williams, le portier sud-africain. Et bien, il a été le seul hier à être double gagnant, pourtant, dans cette soirée. Alors, c'est vrai que c'est pas tout à fait le prix, peut-être, qu'il espérait. Il a reçu les prix de gardien de l'année chez les hommes et de joueur interclub masculin de l'année. Voilà, on se souvient de ses arrêts de pénalty spectaculaire lors de la dernière CAN, notamment
les interclubs.
Ah oui, ça c'est pour la sélection, hein, les 4 dans la victoire en séance de tir au but en quart de finale contre le Cap-Vert, on s'en souvient. On se souvient aussi que l'Afrique du Sud a atteint la demi-finale de cette CAN pour la première fois depuis quelques années.
Ils ont même été 3e.
Ils ont même été 3e. Et ensuite, le meilleur joueur interclub, c'est parce qu'avec les Mamelodi Sundowns, il a établi un record en encaissant seulement 11 buts en 30 matchs dans le championnat sud-africain, tout en remportant le titre.
C'est pas justifié. Désolé, c'est pas justifié. T'as 2 gardiens qui ont fait une année formidable. Le gardien de l'Espérance de tennis, Aminala Memiche, qui prend 0 but ou 1 but en finale contre le Ahli du Caire. Et le gardien du Ahli du Caire, qui est le fils du vieux Schubert. Il a un fils qui fait gardien.
Le compositeur
du gardien. La truite.
La truite de Schubert. Je reviens. Le gardien du Ahli du Caire s'appelle Schubert. On le met là, pourquoi ? Parce que le gardien titulaire est blessé. Et ce petit gars-là, il encaisse 0 but. Et il remporte la Ligue des Champions. Rien que pour ça, il méritait, parce qu'il faisait partie de la liste, le fils Schubert. Il aurait mérité ce trophée. Mais on le donne à quelqu'un qui a fait demi-finale et qui a encaissé 11 buts en championnat. Ça a voir quoi avec les interclubs, mon cher Olivier ?
Rien que pour ça, on va écouter Ronwen Williams, content d'être heureux.
Vous savez, les entraîneurs de gardiens n'obtiennent jamais la reconnaissance qu'ils méritent. Bien sûr, on récompense les coachs, les tacticiens, mais les entraîneurs de gardiens sont toujours mis de côté. C'est le bon moment, l'occasion pour moi de les remercier pour le travail qu'ils ont fait, parce que nous sommes un groupe particulier, un peu à part, et nous sommes une équipe, nous les gardiens. On s'encourage et ils m'ont poussé tous les jours. C'est grâce à eux que je suis là. Recevoir cette distinction, c'est incroyable. Je suis fier de ce moment, je me sens vraiment heureux, vraiment fier de moi, fier de ne pas avoir abandonné dans les moments difficiles, quand tant d'obstacles se sont levés devant moi. Je suis simplement fier de moi.
Il est fier, Ron Wayne Williams. Et vous, le technicien que vous êtes, c'est pas si souvent qu'un joueur récompensé dit « Moi, je voudrais remercier les entraîneurs de gardiens. Je voudrais penser et leur dédier quelque part. » C'est pas mal.
Ouais, c'est bien. Et puis, entre nous, quand on a un bon gardien, on fait souvent des meilleures saisons. Hein. Moi, chaque fois que j'ai eu un gardien plus que moyen, j'ai parfois été remercié. S'il y a bien deux postes qui sont très importants, c'est les attaquants. Bon, ils sont mis à l'honneur régulièrement, mais si on a un bon gardien, ça facilite la vie des entraîneurs et ça les rend bien meilleurs, les entraîneurs. Parce que quand on a un gardien performant, et on voit ça dans chaque équipe du monde, ça rassure toute la défense et ça rassure toute l'équipe. Et d'accord, un petit coucou au coach des gardiens, je trouve que c'est bienvenu parce que c'est quelque part un petit peu un monde à part, les gardiens.
Après, même lui, c'est si un maintenant,
avant, on les appelait. Maintenant, c'est des assistants. C'est plus des entraîneurs des gardiens qui sont dans un coin là-bas. Ils participent pratiquement à tout ce qui est relance défensive, surtout avec les nouvelles règles de maintenant.
Partie intégrante du staff, absolument.
Alors qu'avant, ils étaient un petit peu mis de côté.
C'est un monde à part.
C'était un monde à part et c'est devenu des assistants comme les assistants d'équipe de joueurs de champ.
Et Ronan Williams, en tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'un gardien puisse accéder, qu'un gardien évoluant sur le continent puisse accéder à cette catégorie des 5 meilleurs joueurs.
C'est génial. S'en féliciter.
Après, il est logique, mais Franck a raison de mettre une nuance sur les compétitions interclubs où il n'a pas été majeur. Par contre, oui, effectivement, c'était le gardien de l'année pour l'Afrique, évidemment, de par sa canne exceptionnelle.
C'est exactement ça, tu as bien résumé ma pensée. Et...
C'est sympa, ils sont tous d'accord.
Non. Après, le type, c'est le capitaine des Sundowns, c'est le capitaine des Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Il est plus que trentenaire. C'est quelqu'un qui a un grand professionnel. Il a beau évoluer en Afrique du Sud, c'est vraiment un super joueur. Donc, heureux pour lui, effectivement. Et là, il touche deux de récompenses. Je crois qu'il faisait partie aussi, dans les récompenses Ballon d'Or, il faisait partie aussi des gardiens qui avaient été retenus. Il n'a pas été récompensé, mais pour le reste, sur les interclubs, je suis désolé, c'était pas lui le meilleur joueur. Mais encore une fois, on n'est pas derrière ceux qui votent et ils ont fait ce choix-là.
Le troisième sujet dans ce débrief complet des CAF Awards, des Oscars de la CAF hier à Marrakech, c'est le titre d'entraîneur de l'année chez les hommes qui est allé logiquement à Emer Sfaé. Bon, il y avait du monde, parce qu'il y avait beaucoup. Hugo Broos, et on l'aime bien Hugo Broos, champion d'Afrique en 2017 avec le Cameroun, et qui a amené donc cette équipe sud-africaine à la troisième place, et ça faisait des lustres que ça n'était pas arrivé. Il y avait également Sébastien De Sabre, qui fait un énorme boulot avec la RDC, et on le salue lui aussi s'il est allé à l'écoute. C'est donc Emer Sfaé, rien à dire, d'une logique implacable, il est champion d'Afrique, point barre. Non ? Je vous vois pas si sûr, Franck.
Après, il y a des... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, je vais essayer. Il y a des équilibres à trouver au niveau des trophées. Quand vous êtes fait partie du panel de votants, et ils sont je ne sais combien, malheureusement on n'a pas la liste, on n'a pas le nombre, mais on essaye de donner un petit peu, de récompenser un peu tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, la Côte d'Ivoire a eu le trophée de meilleure équipe nationale.
C'est cohérent avec celui de meilleur sélectionneur.
Emers, moi je suis très heureux, vous connaissez mes sentiments pour la Côte d'Ivoire, donc très heureux pour le coach Emers. Mais il y avait aussi Marcel Koller, le technicien suisse, qui a remporté la Ligue des Champions, qui a remporté le championnat. Lui, il a été régulier.
Avec l'Arli.
Avec le Arli, il a été régulier sur une année. Emers, et c'est pas lui faire injure, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Emers, c'est vrai qu'il a sorti la Côte d'Ivoire d'un sacré faux pas, avec l'aide aussi du Maroc à un moment donné, on va pas revenir sur les circonstances, pour aller jusqu'au titre. La deuxième partie d'année à la tête des éléphants, elle était un petit peu plus heurtée. Voilà.
Y a d'autres notamment les derniers rendez-vous. Là,
les derniers rendez-vous. Mais bon, ça peut arriver et ça n'enlève rien à la conquête du titre d'Emers avec son encadrement technique. Au passage.
Philippe, un mot sur Emer Sfaé, logique, et la Côte d'Ivoire donc derrière, bien sûr, sélection de l'année.
On ne peut pas parler du football africain toute l'année et passer sous silence ou juger un petit peu de manière anecdotique ce qui s'est passé à la CAN. La CAN, c'est quand même le repère, c'est notre boussole, c'est notre repère dans le football africain. Quand Emer Sfaé réussit en 4 matchs, c'est vrai, hein, c'est 4 matchs qui le mettent en lumière à partir du 8e de finale, parce qu'il n'a même pas fait le... il était adjoint au premier tour, il était quand même là. Oui. Mais bon, c'est en 4 matchs, c'est 4 matchs qui font que... moi, je suis d'accord avec cette interprétation des trophées. Et je ne suivrai pas Franck quand il met des nuances parce que ce n'est pas toute l'année, etc. Paolo Rossi a eu le Ballon d'Or en 82
bien sûr,
en 3 matchs, 4 matchs.
4 matchs.
4 matchs et il n'avait même pas joué les 6 premiers mois de la saison parce qu'il était suspendu pour Paris.
C'était il y a 40 ans, 42 certes, ans, tu vois. Certes, donc, on peut évoluer aussi dans le.
Non, je suis d'accord, mais je trouve que c'est des compétitions tellement majeures qu'effectivement, c'est normal que ça ressorte. Et en plus, concernant l'Afrique, qui a beaucoup trop tendance à faire la une de ses journaux avec des joueurs de Liverpool, de ce qu'ils font au Liverpool, au Real, ou je ne sais pas où, bah, là, au moins, mettre en évidence quelqu'un qui a fait quelque chose...
Et un technicien africain
qui a fait quelque chose dans son pays.
Bon, je suis ravi de vous avoir demandé
votre
avis, messieurs, mais on a un technicien ici, c'est le seul qui m'intéresse, David.
Surtout qu'il connaît bien Emers.
Il est avec lui toute la semaine dernière, il a même failli le faire venir chez Madame Annie, puis boum.
Oui, mais bon,
il avait des courses de Noël à faire.
Je ne désespère pas le faire revenir ici. Je pense qu'on va trouver un autre rendez-vous. Oui, pour Emers, bien entendu. Moi, je suis son tuteur dans la formation qu'il fait actuellement sur le BEPF.
C'est un bon élève.
Très bon élève. Moi, j'ai passé. Je suis son tuteur, donc je vais le voir sur place. J'ai passé 5 jours à Abidjan. J'ai vu comment il fonctionnait avec son staff. J'ai discuté aussi avec son président. Donc, on les observe dans le contexte. Et après, on essaie d'améliorer leur point de vigilance. C'est un jeune entraîneur. Alors, lui, il a été régulier, mais régulier sur 15 jours, hein, sur 4 matchs. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mmh. Alors, c'est vrai que c'est très difficile. Ouais, il a ressuscité quelque part cette équipe de Côte d'Ivoire dont on croyait plus vraiment. Moi, le premier devant ma télévision. Et là, c'est un élève, bien sûr, assidu. On a des stages à Clairefontaine, on a des stages en club. Et puis, j'ai pour mission avec Francis Gillot, qui a 5 stagiaires. Moi, j'en ai 5, dont Emers. Et on va les voir en club, comme je suis allé la semaine dernière à Londres, voir Amandine Miquel et Jocelyn Prêcheur en Angleterre. Donc, on est là pour les observer et pour leur donner nos... On n'est pas là pour leur mettre des notes de 1 à 10, c'est fini ça. On est là plutôt pour échanger avec eux sur le point de vigilance, sur certains points... qui peut-être... Vous savez, un entraîneur, on ne lui donne jamais ses défauts. On essaie toujours d'avoir, notamment les assistants, d'avoir un regard toujours bienveillant à son égard, alors que les entraîneurs, ils ont aussi besoin d'avoir une opposition et qu'un assistant n'est pas justement un courtisan, un assistant et quelqu'un qui aide son coach. Et je pense qu'il est bien accompagné dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Et j'étais très, très content qu'il soit récompensé par cet exploit court, en effet, comme tu le dis, Franck, comme tu le dis, Philippe. Mais fallait quand même, c'était assez irréel et qu'il soit récompensé. Ça me fait vraiment plaisir qu'il fasse sa formation à la direction technique nationale, la FFF. Ça me fait aussi énormément plaisir et je dois dire que c'est un élève assidu et qui a une expertise et il a une expérience. Même s'il débute dans ce métier de sélectionneur, il ne faut pas oublier de savoir qu'il est passé par Nice, qu'il est passé par Clermont et
oui,
que ce n'est pas non plus un débutant.
Mais en voilà. Formation.
En formation, on va dire.
Merci d'avoir rappelé tout ça.
Est-ce qu'il a... je pose la question parce que tu as eu la chance d'être à ses côtés. Est-ce qu'il a digéré en fait ces quelques semaines, ces quelques mois où, voilà, autour du titre, ça a été quand même super lourd pour lui et son
encadrement.
C'est
quand même une dinguerie de gagner la CAN chez vous.
Il t'en a parlé ou
plus
pas
oui,
là, moi, je l'ai cette digestion du titre.
Je l'ai vu
titre,
sur place quand on est arrivé à l'aéroport. Tout le monde lui saute dessus, donc il faut digérer un nouveau statut.
C'est ça.
Mais je pense qu'il est bien accompagné avec son épouse que je connais, son staff, son président... des gens autour de lui, et je pense qu'il est resté lui-même, simple et abordable.
Puis c'est le gros truc, je trouve. Hein. On a eu la chance un peu de le côtoyer aussi. Emers, il a une grosse capacité de travail. Moi, c'est ça qui m'a toujours impressionné avec lui. Je me souviens de l'avoir côtoyé comme consultant du côté de Canal Afrique. Et je le voyais toujours bûcher à fond. Et il était à Nice, s'occupait des jeunes et tout ça, quoi. Et moi, on sentait quelqu'un qui était déjà.
Il y a plein de choses à faire. Il faut faire un stage à l'étranger. Il faut faire un projet de jeu. Il faut expliquer tout ça. Il faut le mettre dans des dossiers. Ils ont des devoirs entre guillemets à nous rendre, associés avec des missions à son club et de l'observation. C'est vrai que ça lui fait pas mal de choses à faire. Et pour lui, ça n'a pas l'air de le déranger parce qu'il est toujours dans les temps, dans tout ce qu'il a à rendre comme document. Voilà.
Bah, écoutez, moi, je trouve
Et puis, un entraîneur qui n'a pas une force de travail extraordinaire, je pense qu'il ne peut plus faire du haut niveau par les temps qui courent, même si en général, les entraîneurs actuellement sont bien accompagnés parce qu'ils ont de plus en plus d'assistants.
Ils ont des gros staffs.
Ils ont des staffs de plus en plus conséquents à l'image de Deux Herbies. où je suis allé, il a 12 assistants.
Combien 12
Il a 12, une bonne dizaine, parce que je suis le tuteur de Pancho Abbandonado, donc je suis allé voir Pancho déjà 3 fois, et j'ai vu quand même beaucoup de gens qui sont autour de De Zerbi, par exemple.
Moi, ce que j'en dis, c'est que j'espère qu'il est à l'écoute, Emers Faé. Si jamais il ne l'est pas et que vous le connaissez, dites-lui bien qu'il écoute l'émission en podcast, il comprendra qu'on lui veut que du bien et qu'il aurait bien tort de pas venir.
Bien entendu, mais je ne désespère pas de le faire venir une fois prochaine.
On l'embrasse bien fort et on l'invite, bien sûr, au nom de la dame. Ça me fait son porte parole, elle l'a bien mérité. je propose maintenant
Madame Annie.
Voilà, Madame Annie. Je propose que, comme on vient de dire du bien de lui, bah, écoutons-le.
C'est vrai que c'était pas facile de prendre l'équipe en cours de compétition, surtout après la défaite face à la Guinée équatoriale. Mais on va dire que la chance que j'avais, c'est que je connaissais déjà le groupe parce que ça faisait déjà un an et demi que je travaillais avec eux. Ça m'a permis de gagner du temps sur l'adaptation et le fait de connaître les joueurs, le fait de connaître l'atmosphère aussi du pays, de connaître comment les supporters ivoiriens réagissent après des défaites ou des victoires. Tous ces éléments-là m'ont permis de gérer le groupe et de manager pour qu'on puisse sortir la tête de l'eau et aller chercher ce titre avec le soutien de tous nos supporters et du peuple.
Voilà pour Emers Faé, récompensé donc entraîneur, sélectionneur de l'année lors de ces CAF Awards à Marrakech hier. Avant de passer aux femmes quelques minutes, un mot sur Lamine Camara, le Sénégalais, milieu de terrain sénégalais de Monaco, meilleur jeune joueur de l'année. Franck ?
C'était attendu, hein. Là encore une progression phénoménale, un joueur de grande qualité, un joueur d'avenir. Il n'y a pas vraiment... Il y avait une belle liste, hein, je trouve, au niveau des espoirs. Ah oui. Mais le concernant, il n'y a pas vraiment eu de surprise. C'était assez attendu de retrouver Camara.
La vraie surprise, c'est d'arriver à gagner 2 fois de suite. Ouais. Ce prix-là, en étant jeune, c'est pas évident. Quoi, ouais,
ça veut dire qu'il a été, il a su être, il a été régulier. Et c'est ce qui a sans doute tapé dans l'œil des votants.
Passons aux femmes et la meilleure d'entre elles, c'est une Zambienne, Barbara Banda, qui a marqué cette saison donc de la National Women's Soccer League, autrement dit, vous avez vu,
championnat nord-américain.
Non, mais l'anglais, moi, ça a bossé. Donc c'est le championnat nord-américain, bien sûr.
Avec l'Orlando
Pride. Elle a réalisé son 3e triplé aux Jeux Olympiques de Paris 2024, un record absolu. Elle est devenue la première joueuse africaine incluse dans le FIFPro Women's World, c'est-à-dire dans le 11 type de l'année 2024. Elle a donc été logiquement récompensée. On l'écoute et on en dit un mot juste après. Barbara Banda.
Ce trophée est très important pour ma carrière. Rien n'est facile dans le football, mais on fait ce qu'on doit faire le mieux possible, en travaillant dur et en restant discipliné pour atteindre de beaux objectifs.
Quand elle dit que rien n'est facile, on rappelle qu'elle était capitaine de l'équipe de Zambie, écartée de la CAN féminine en 2022 en raison de vérifications sur son genre. Mais elle était présente au Mondial féminin de 2023 et donc aux Jeux de Paris. Barbara Banda, ça c'est l'Afrique presque de l'Est ou centrale, c'est votre secteur, Franck Simon.
C'est la COSAFA, oui, l'Afrique australe. Ouais, c'est une grande attaquante. C'est la fin de l'ère Assissa Tochoala, la Nigériane qui a remporté, je ne sais pas combien, 4 ou 5 des trophées.
Donc c'était la fin. Monopole. Ouais.
Ouais, voilà, elle avait une sorte de monopole. Il y a d'autres joueuses, d'autres grandes attaquantes africaines. Je pense aux sœurs Chawinga. On en a une qui a joué au Paris Saint-Germain et qui, je crois, est partie du côté de Lyon. Il y a sa frangine qui est aux États-Unis. Il y a vraiment. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est malawite. Et le Malawi, ce n'est pas forcément une grande nation dans le football africain féminin. Ce qui n'est pas le cas de la Zambie, qui est une équipe très, très compétitive. Et ouais, c'est formidable. Mais pour Barbara Banda, pareil, hein, c'était assez attendu finalement que cette grande joueuse qui performe dans un grand championnat, en l'occurrence le championnat pro nord-américain, remporte le trophée.
Elle joue
plutôt
à Orlando Pride, ouais, hein, elle a marqué le but décisif en finale face à Washington.
C'est logique.
Logique aussi pour vous tous. Messieurs, on avance. Je voudrais qu'on dise un mot de la meilleure entraîneur.
Une
Marocaine, Lamia Boumedi. Et là encore, c'est logique puisque l'équipe qu'elle entraîne, le tout-puissant Mazembe, on en a tant parlé chez les hommes, ça fait du bien d'en parler chez les femmes. On salue le président Katumbi qui doit être heureux de voir ces femmes.
Ça va bien
réussir
chez les féminines.
Ouais, ça va mieux que chez les hommes, où on fait plutôt du surplace avec beaucoup de nuls en ce moment en Ligue des Champions. Elles sont championnes d'Afrique et logiquement, Lamia Boumedi est récompensée et le TP Mazembe, meilleur club, et Lamia, donc meilleur entraîneur. Philippe.
C'est un symbole quand même de ce football marocain qui met des moyens partout, y compris dans le football féminin où il partait pourtant de loin. Il y a pendant des années, on n'entendait pas du tout parler d'équipes féminines dans le nord de l'Afrique en général et au Maroc. Et en fait, on voit que c'est vraiment une véritable politique fédérale. C'est une véritable politique, même au-delà de fédérale, je dirais, qui fait que le Maroc, maintenant, est une nation constituée en football féminin. Et il faut bosser. On peut prendre l'exemple en France parce que le football féminin n'est pas assez développé alors qu'on avait de l'avance en France. Et on n'a pas su maintenir du tout cette avance et on est en train de la dilapider
même
totalement.
Même l'équipe de France est en train de retomber dans un anonymat certain.
Oui, alors l'équipe de France n'a jamais été au sommet, mais elle était, disons, correcte. Mais les clubs étaient au sommet et on n'est même pas foutu de faire un championnat. Le Maroc le fait. Et ils sont en avance en Afrique et ils rattrapent donc à une vitesse éclair.
Franck Simon.
Lamia Aboumehdi, qui entraîne donc Mazembe, c'est sa deuxième saison. Moi, ce qui m'interroge, c'est que, en fait, il a fallu qu'elle s'expatrie et fasse gagner cette compétition à Mazembe, dont c'est la deuxième participation, pour être enfin honorée. Je regarde le meilleur club marocain féminin, l'AS FAR de Rabat. C'est un homme, et ça fait plusieurs saisons que c'est un homme. Pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas confié les rênes de cette équipe qui régulièrement atteint la finale? Ça a été le cas encore il y a quelques semaines en arrière. Le même club qui donne la meilleure joueuse, la meilleure espoir. Dans les tournois, dans le tournoi, là, dans les CAF Awards, et la meilleure joueuse aussi, Sanam Soudi. C'est curieux.
Avant de clore ce chapitre CAF Awards, deux choses. Vous rappelez que la Nigériane Chiamaka Nadosier, voilà, je vais y arriver dans le bon ordre, a remporté le prix de la gardienne de l'année pour la deuxième année consécutive. Elle évolue où? Au Paris Football Club. Et elle a été
Eh oui.
Ben voilà, c'est fait. Aussi, hein. Et puis, donc, juste un tout petit mot, rappeler, on va pas débattre dessus, donc, parce qu'on s'est moqué donc, de ce 11 type de l'année et des joueurs qui votent. On a parlé depuis une demi-heure de Ronwell Williams, de Serou Girassi. Bah, étonnamment, ils sont pas dans le 11 type.
Oui, n'importe quoi.
Voilà.
Étonnant, non?
Oui, il y a absolument rien d'autre à
Mohamed
ajouter.
Mohamed Salah, qui n'était pas dans les. C'était quoi?
Dans les
5 meilleurs.
Ouais, dans les 10 meilleurs.
Ouais, mais il était même pas dans les 10 meilleurs, ouais, mais il est quand même. Il est heureusement dans l'équipe type. Enfin bon, ouais. Bref.
Allez, voilà pour la CAF ce soir. Donc, on l'a dit, Oscar de la FIFA à Doha, chez le patron, The Boss, qui a créé The Best. Et on ne sera pas obligé de les débriefer aussi longtemps demain qu'on se le dise. D'ici là, direction l'Espagne.
L'exploit, Leganés, le 17e du championnat s'impose à Montjuïc 1-0. Le Barça va mal, une seule victoire maintenant depuis 6 journées et surtout le classement en Liga est complètement fou. Il n'y a qu'un point entre le Barça, le Real et l'Atlético.
Eh oui, il a tout dit, la Liga, donc son Barça qui n'avance plus, son Real qui n'en profite pas. Et l'Atlético Madrid, s'il profitait de ça. Barcelone donc battu à domicile par Leganés. Leganés un promu, on le rappelle. Troisième défaite en Liga depuis un mois, plus deux nuls pour une victoire. Ça veut dire que le Barça a pris 5 points sur 18 possibles. On a l'impression que ça flambait. En fait, on se demande si le fait d'avoir écrabouillé le Real 4-0 l'aurait pas un peu monté à la tête.
Oui, ils ont peut-être cru. C'est possible que le Barça ait cru un peu trop tôt quand ils ont battu à la fois le Real, mais aussi le Bayern, en leur mettant 4 buts également. En une semaine, ils avaient montré.
La surchauffe, ouais.
En une semaine, ils avaient retrouvé un standard de sommet européen. Et de toute façon, enfin. On n'est jamais champion d'Europe en octobre, hein, c'est jamais arrivé. Personne n'a jamais été champion d'Europe en octobre. Voilà, c'est un retour un peu à la raison, un retour un peu à l'ordinaire. Parallèlement, ils ont gagné à Dortmund, donc en Ligue des Champions, ils sont très bien.
Et il fallait le faire, aller gagner à Dortmund aussi.
Oui, donc je pense qu'il faut, il faut s'étonner d'ailleurs. Ce début de saison est extrêmement intéressant parce qu'il n'y a pas une équipe qui survole. Même Liverpool est en train de caler enfin entre guillemets. Hein, je ne souhaite pas à Liverpool de caler.
Ils étaient sur un tel rythme, il fallait bien qu'il y ait un petit nul qui arrive de temps en temps.
Ils semblaient être les seuls qui avaient un rythme d'enfer dans toutes les compétitions. Et même eux commencent à caler un petit peu. Donc finalement, je suis rassuré. Je me dis que c'est un peu généralisé. Les très gros qui avalent tous les meilleurs joueurs du monde, qui ont des budgets aujourd'hui 10 fois supérieurs à leurs adversaires dans le même championnat, heureusement, n'écrasent pas tout. Et de temps en temps, ont des périodes un peu mortifère, ça leur fait du bien, c'est très bien.
Votre avis sur le Barça, Franck Sim?
C'est exactement mon ressenti d'une équipe qui était, ce que je disais, un petit peu en surchauffe, qui a sorti de grosses perfs. Et puis bon, voilà, là, ils sont dans un coup de moins bien. Le souci, c'est qu'ils vont jouer une équipe qui, elle, est très en forme. Ils vont enchaîner là tout de suite, ouais, je crois, ce week-end.
On y vient.
Donc, c'est, il ne faut pas se manquer. Autant, bon, ils ont laissé filer des points là, bon. Mais le match qui arrive, ce serait mieux pour eux de se relancer, de relancer la machine. Après, voilà, je ne dis pas que les joueurs choisissent les matchs, loin s'en faut. Mais la Ligue des Champions, elle est tellement tentante. Il y a tellement de belles affiches. Je n'aime pas la formule actuelle, hein. Mais il faut reconnaître qu'il y a, de belles
ouais, parce
belles
que moi, je ne l'aimais pas non plus, mais je l'adore maintenant. Jackie, votre avis, quand on a une équipe qui plonge comme ça, l'entraîneur, il fait quoi? On l'a vu avec Guardiola, Manchester City.
On a un exemple extraordinaire avec City, hein, qui a perdu 8 fois sur 11 matchs, donc c'est jamais arrivé.
C'est encore
donc,
pire que le Barça.
Ça, c'est pire que le Barça. Le Barça, ben, moi, je les ai bien suivis dans tous les matchs, là, notamment ceux dont on a parlé, le Real, le Bayern, Brest aussi. Brest, moi, j'étais à Brest à ce moment-là. J'avais rarement vu une équipe avec autant de jeunesse en défense jouer aussi haut face au Real et face aux fusées que sont Vinicius et Mbappé. Donc ça m'avait impressionné et je me suis dit, ouais, est-ce qu'ils vont pouvoir être réguliers? Parce que la grosse difficulté des équipes, c'est comme d'un joueur, c'est d'être régulier et de rester dans les standards. Et force est de reconnaître que c'est compliqué, on l'a vu avec Liverpool, avec d'autres équipes. Et là, actuellement, il faut admettre que sur une saison avec autant de matchs et d'une équipe jeune aussi, très jeune, c'est la difficulté des jeunes, c'est d'être régulier sur des trois fois dans la semaine, parce qu'ils jouent pratiquement trois fois, parce qu'ils jouent aussi après dans les sélections nationales. Donc c'est compliqué, ce qu'ils font est assez extraordinaire. Alors pour revenir, que doit faire le coach à ce moment-là? Il faudrait peut-être demander à Guardiola, qui n'est pas habitué à ce style de compétition. Et
il se tape dessus.
Dans les styles de coach, il y a des gens qui sont faits pour être en haut, il y a des gens dont la spécialité est de se maintenir, d'autres d'essayer d'accrocher des titres, voire des coupes, et surtout d'approcher les premières places suivant le budget qu'on a. Donc c'est la grosse difficulté des entraîneurs. Et je pense que le Barça avait fait un choix intéressant avec le coach qu'ils ont, qui a très bien débuté à l'image de Slot à Liverpool.
Vous avez cité au passage Vinicius, puisqu'on parlait de The Best, ce serait tellement drôle que Vini ce soir soit récompensé du prix The Best. On en parlerait peut-être, allez, 3 minutes de plus. Demain, quelqu'un a évoqué l'affiche du week-end, autant la citer, parce que c'est quand même drôlement bien foutu le football. Hein. Barcelone, Atlético, ce sera samedi soir et on va parler de l'Atlético.
La pone hacia atrás, Griezmann, gol.
Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, le plantant dans le ciel.
Il devient la légende de l'Atlético de Madrid.
Un 192e but pour l'Atlético Madrid à son compteur.
Il est le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético.
Mais pour tant de beauté, merci et chapeau bas.
Marc Antoine Griezmann.
Et on a entendu, bien sûr, c'est un petit cadeau qu'a fait Laurent Salerno à notre ami Franck Simon, grand fan de Barbara.
Merci.
Et donc, pour accompagner cette chevauchée de l'Atlético Madrid, vainqueur 1-0 face à Retafe, 11 victoires de rang, toutes compétitions confondues pour les Colchoneros. La dernière défaite, c'était le 27 octobre au Betis Séville. Et si c'était eux, quoi, ils sont là, on l'a dit.
Jusqu'où ça
juste en embuscade, ils sont avec le même nombre de points que le Barça, mais avec un match en plus à disputer. Bon, le Real est juste un point derrière, avec un match en plus à disputer aussi.
Oui, très serré.
Ça va se jouer, bien sûr, entre les trois, parce que l'Athletic Bilbao, quatrième, est déjà un peu largué, et alors Mallorca est encore plus loin. Bref, on aimerait bien peut-être que ce soit le jour, la saison de l'Atlético, non?
Oui, puis ça peut, d'autant que le Barça a des nouvelles ambitions européennes et que peut-être que ça leur joue des tours parfois en Liga, que le Real,
tu l'évoques.
Que le Real a des tourments. Le Real est un peu irrégulier, donc ça peut être l'occasion pour l'Atlético, que j'ai vu pourtant minable au Parc des Princes. C'était misérable, c'était vraiment d'une médiocrité sans nom. Et ils étaient à ce moment-là sans confiance. Et le football, c'est ça qui est merveilleux en football, c'est la confiance, l'état d'esprit change tout. Depuis, ils sont bons. Ils sont bons. On jouait Griezmann qui était nul au Parc. Mais nul, minable, rien. Mais zéro. Là, depuis, il est transcendant. Il est absolument génial.
On va parler de lui, bien
sûr.
Maintenant,
l'Atlético devient spectaculaire, marque des buts. Tout. C'est merveilleux, le football. C'est aussi merveilleux quand Manchester City, qui était un monstre de régularité, s'effondre complètement. L'état d'esprit n'est plus là. On se demande pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Même Guardiola ne sait pas pourquoi. Et à l'inverse, vous avez une trajectoire complètement ascendante de l'Atlético. D'une semaine à l'autre, tout change. C'est merveilleux, le foot. J'adore.
Franck.
Pour les entraîneurs, c'est
plaît,
plus dur.
Ça vous
pour les
plaît entraîneurs, aussi, c'est plus forcément.
Oui, puis il y a quand même, c'est une équipe qui a quand même pas mal évolué. L'Atlético Madrid, il y a eu du renouvellement, mais il y a quand même une colonne vertébrale de qualité avec les deux pôles, avec moi. Évidemment, moi, c'est le poste de gardien, donc c'est, je regarde au Black qui a eu des moments plus compliqués ces dernières saisons et qui est revenu à, voilà, à un niveau d'excellence. Et puis vous citiez. Griezmann, mais autour de lui, il y en a d'autres.
Hein. Il y a l'attaquant norvégien, Alexander Sørloth, arrivé de Villarreal cet été, hein, pour 32 millions d'euros. Il a marqué 7 buts en Ligue 1 cette saison, mais 24 en tout sur l'année 2024. Il est juste derrière un certain Lewandowski.
Pour moi, c'est un mystère, parce que je me souviens de lui quand il était en Turquie, qu'il avait été prêté. Ensuite, il est revenu dans le football en Europe occidentale, du côté de l'Allemagne, me semble. Bon, il marquait pas énormément.
Non, et il joue pas tant que ça. Il est souvent remplaçant à l'Atlético. Ouais, ouais.
Mais il est efficace quand il entre, il met des buts.
Et puis il y a Antoine Griezmann.
Quand on parle de l'Atlético, je me dis, c'est bien la preuve que la stabilité d'un coach. Ça fait combien de temps qu'il est là-bas, le coach?
12
ans. On va l'entendre d'ailleurs.
Ça veut dire que c'est quand même
Diego Simeone.
Simeone, c'est quand même un gars.
Cholo.
Et on a plusieurs fois annoncé son départ. On dit ouais, c'est foutu, ça n'avance plus cette équipe, ils se sont cassés la figure. Au revoir le Cholo, mais Cholo est toujours là.
Cholo est toujours là, Griezmann aussi, parce qu'il était parti puis il est revenu, et il a bien fait, 33 ans, 17 matchs en Liga, 7 buts, 4 passes décisives, 11 buts, toutes compétitions confondues cette saison.
Ça va, hein,
hein. Je ne me lasse jamais de rappeler cette grande phrase d'un certain Djokovic, not too bad, pas si mal, pas si mal. Non mais c'est vrai, on est quoi? On se dit.
Mais on peut pas être surpris.
Il peut pas revenir en équipe de France.
Il a pas le niveau, sûrement. Non, c'est un joueur merveilleux. Et puis pour un entraîneur, je pense que c'est le joueur idéal parce qu'il est d'une immense intelligence. Il peut jouer.
On aime l'aimer.
Il peut jouer plusieurs rôles. Il a un sens
et
du foot
football
exceptionnel.
Aujourd'hui, si on regarde les matchs, moi je regarde énormément, vous aussi, on ne voit plus beaucoup de joueurs de cette qualité technique, intelligent. On voit souvent des joueurs athlétiques, puissants, mais lui, il amène cette dimension technique, tactique, et il rend les autres meilleurs, il est très efficace. Donc oui, deux choses importantes, Griezmann et le coach, on se rend compte, la stabilité, c'est un point fort. Dès l'instant où on a quelques mauvais résultats, c'est peut-être pas utile de tout changer, de tout révolutionner.
Et t'as aussi un bon gardien.
Depuis le temps,
un bon gardien, Jackie, c'est quand même déterminant.
Depuis le temps que vous l'aviez pas fait de passe décisive, je prends celle-là, vraiment.
Il y a eu combien d'entraîneurs virés cette semaine?
Parce que 6, on va 7, entendre 8. Diego Simeone parler justement d'Antoine Griezmann et de sa relation avec, et ça c'est important aussi, Julian Alvarez, l'Argentin.
Antoine Griezmann et Julian Alvarez progressent dans leurs automatismes et dans la compréhension l'un de l'autre. Leur entente est de plus en plus visible à chaque match. Et lorsque Correa ou Sørloth entrent en jeu, ils se nourrissent d'autres caractéristiques qui font de nous une très bonne équipe. Et nous avons besoin de tout le monde. Il est évident que nous avons 4 attaquants très importants et nous avons besoin qu'ils soient au meilleur de leur forme et que dans chaque mi-temps que chacun joue, ils puissent continuer à nous donner ce qu'ils nous ont donné jusqu'à présent.
On l'a reconnu, Pierre-Olivier Guérin. Progresse chaque
moi,
jour dans le doublage.
Simeone.
Dans le doublage, vraiment. Il tient son Simeone et il nous reste quelques secondes. On a envie d'y croire à ce possible titre pour l'Atlético.
Pourquoi pas? Puis surtout, avant, quand on faisait l'Atlético, on se disait ils sont tous derrière, ils prennent pas de but, ils cadenassent, on s'ennuie. Mais non, ça a changé maintenant. Ils ont quatre super attaquants, ils les utilisent. Et ils gardent cette solidité défensive en ayant la meilleure défense avec 11 buts, mais ils marquent quand même des buts.
Franck, je vous ai vu dodeliner de la tête, c'est jamais bon.
Non, c'est pas ça, c'est que j'attends.
Je vous donne 20 secondes.
J'attends samedi soir.
Mais ouais.
Pour avoir un petit
bien sûr.
Un indice. Oui, prudent.
Barcelone, Atlético, les amis. Ça, c'est super un match à regarder. On espère tellement voir Antoine Griezmann briller. Merci d'avoir été avec nous pour débriefer ce qui s'était passé hier soir. Demain, on débriefera ce qui se passera ce soir. C'est ainsi. Merci, monsieur Salerno. Merci, Pierre-Olivier Guérin. Rendez-vous, même heure, bien sûr, demain, 16h10, temps universel.